à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Suite de notre série donc consacrée à la fabrique du divertissement, après avoir évoqué lundi la question de l'infotainment dans les talk-shows américains et puis le karaoké comme phénomène social hier, place au parc de loisirs, Disney, Patriot Park, Wanda City, l'essor des parcs à thème.
And now, please welcome Chairman and Chief Executive Officer of the Walt Disney Company, Bob Iger.
Thank you, and we are profoundly grateful for the opportunity, and we sincerely hope Shanghai Disneyland will bring great joy to the people of China today and for generations to come.
Les programmes qui se sont ouverts ont leurs propres caractéristiques. Les parcs de Jiangxi et Anhui ont leur empreinte locale. Quand le parc de Harbin ouvrira, il proposera tout un univers sur la glace et autour de la culture snow. C'est ça notre avantage. Le tourisme sera l'industrie pilier du groupe Wanda. Et notre but, c'est de devenir la compagnie de tourisme numéro 1 en 5 ans. Nos projections en termes de tourisme devraient atteindre les 200 millions de touristes.
Robert Iger, président directeur général de Walt Disney Company, et Wang Zhaolin, à la tête du groupe Wanda, Disneyland, Wanga City, les États-Unis et la Chine qui se livrent une bataille acharnée dans le domaine des parcs d'attractions. En effet, l'année dernière, l'un des hommes les plus riches de Chine, Wang Zhaolin, donc propriétaire du groupe Wanda, ouvrait un parc d'attractions Wanda City. Objectif, contrer l'influence de Disney qui inaugurait à peu près en même temps son deuxième parc en Chine, à Shanghai précisément, le premier en Chine continentale après celui de Hong Kong. Face à ce qui est vécu comme une invasion culturelle américaine, le milliardaire chinois décidait de contre-attaquer. En tout, ce sont 15 parcs que le milliardaire a l'intention de construire en Chine d'ici 2020. Une initiative qui s'inscrit dans la lignée de la politique culturelle du gouvernement chinois qui parsème le territoire des parcs à thème depuis les années 80. Pour Pékin, il s'agit de développer le tourisme intérieur. C'est l'une des mesures phares de la nouvelle politique économique et puis aussi d'exalter l'identité et la culture chinoise. Même volonté de glorifier la nation avec le Patriot Park, le Disneyland militaire de Poutine, comme titrait Le Point, créé il y a 2 ans en Russie, on en parlera tout à l'heure avec Dominique Derda. Et puis en France aussi, les parcs d'attractions peuvent constituer un enjeu d'identité nationale. C'est le cas par exemple avec le Puy du Fou, avec sa vision un peu personnelle de la Révolution française. Quoi qu'il en soit, le parc créé par Philippe de Villiers en 1977, il y a maintenant bientôt 40 ans, n'a jamais attiré autant de visiteurs. Près de 2,2 millions de personnes sur la saison 2016, ce qui en fait le deuxième parc de France. Alors les thématiques historiques ou nationalistes sont-elles l'une des clés du succès des parcs à thème aujourd'hui? Les parcs d'attractions plus traditionnels sont-ils condamnés à disparaître? Voilà certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire et pour parler tout à l'heure de la Chine, Benjamin Tonnet est déjà avec nous en studio. Bonjour Benjamin Tonnet.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Angers et puis membre de l'UFR Estua de l'université d'Angers. Vous avez notamment produit un document qu'on peut retrouver sur le site de l'université, la Chine au prisme du tourisme, mais vous êtes également auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur cette question du tourisme, le tourisme intérieur chinois notamment, mais aussi la mondialisation du tourisme. Également avec nous en duplex depuis Bordeaux, Didier Arino, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes donc en duplex de Bordeaux, directeur de Pro Tourisme, qui est un cabinet spécialiste des études et de conseils dans le secteur du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie. On va pouvoir faire avec vous un point aussi sur la situation en France, en Europe et aux États-Unis. La France, parce que c'est un pays extrêmement important du point de vue des parcs à thème dans ce paysage européen. Le premier parc à thème a été créé dans les années 60 et puis plus de 50 ans plus tard, on en compte plus d'une centaine, voire même 200, voire 250, ça dépend comment est-ce qu'on, quels critères on retient. Mais en tout cas, il semble que ces parcs à thème plaisent beaucoup aux Français, puisque la fréquentation ne cesse d'augmenter. On est à 5 à 8% de croissance depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire quasiment 50 millions de visiteurs par an. Comment comprendre ce succès assez remarquable des parcs à thème en France, qui est tout à fait exceptionnel, je le disais, par rapport aux autres pays d'Europe, hein, Didier Arino?
Alors, nous avons effectivement une culture à la fois des parcs de loisirs et notamment des parcs de loisirs de proximité. En ce qui concerne les grands parcs à thème, on peut dire que la France a bénéficié bien évidemment de l'arrivée de Disneyland, qui à lui seul génère près de la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble des parcs de loisirs de l'Hexagone. Donc c'est un mastodonte qui écrase dans bien des cas le reste des parcs, mais c'est vrai qu'il y a une grande créativité, un savoir-faire français dans les parcs à thème. On a pu d'ailleurs le constater en recevant de nombreux prix ces dernières années, avec des thématiques aussi diverses que le Futuroscope, qui a été créé en étant au départ le parc du futur, de l'image, et qui a évolué en diversifiant son offre. Le Puy du Fou, que vous évoquiez tout à l'heure, qui véritablement est un cas quasi unique dans le monde, un parc au départ, d'abord c'est un spectacle, hein. Au départ c'est la Cinécennie, il y a 40 ans, comme vous le disiez, et puis ensuite il y a eu le Grand Parc, qui a décliné, au-delà de l'histoire vendéenne, une partie de l'histoire de France avec un prisme, un parti pris, une identité. Mais le caractère unique du savoir-faire français, c'est par exemple au Puy du Fou, tout est créé par le Puy du Fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat d'attractions. Or, dans une industrie mondialisée, avec un leader qui est Disney, il y a des fabricants d'attractions qui livrent ces attractions, un petit peu comme des producteurs, des grandes maisons de cinéma qui ensuite fabriquent et distribuent les films. Et la France a en la matière un savoir-faire assez unique, qui est de créer, d'inventer, de proposer aussi du spectacle vivant. Et ce que l'on voit, c'est que l'évolution d'ailleurs des parcs est de plus en plus d'aller, dans un premier temps c'était des attractions, des manèges, puis ensuite de la technologie avec de la 3D, de la 4D, avec des lieux à sensations, et petit à petit on en vient à du spectacle vivant, une mise en scène historique. Les parcs jouent de plus en plus sur une dimension qui est la dimension de l'identité, de l'émotion.
Oui, signe que la forme du divertissement aussi a évolué ces dernières décennies, mais on y reviendra. Restons sur le mastodonte, pour reprendre la formule que vous aviez utilisée, savoir Euro Disney, qui a fêté ses 25 ans d'existence. En un quart de siècle, sont sortis de terre des quinzaines d'hôtels, des dizaines d'attractions, des centres commerciaux, des dizaines de boutiques en tout genre. Alors, les visiteurs sont au rendez-vous, c'est vrai, mais l'opération économique, elle, n'est peut-être pas aussi reluisante. L'OPA, qui a été lancée par la maison mère américaine sur la totalité du parc, démarré le 11 mai dernier. C'est l'une des illustrations. Les petits actionnaires ont vu leur action considérablement baisser, on en a souvent parlé, n'ont jamais perçu de dividendes. Euro Disney est toujours très mal en point financièrement, contrairement d'ailleurs à la maison mère, il faut le noter, hein, la Walt Disney Company, qui elle a parfaitement su organiser les choses grâce à un montage financier spécifique et qui elle, en revanche, reçoit des bénéfices. Mais on est quand même un tout petit peu dubitatif sur le bilan économique d'Euro Disney.
Alors, on peut être dubitatif sur le bilan économique d'Euro Disney si on se place du point de vue du citoyen français. On peut dire que Disneyland Paris est plutôt une bonne affaire. C'est 63 milliards d'euros de valeur ajoutée depuis la création de Disneyland Paris. C'est aussi un peu plus de 50 000 emplois quand on prend les emplois directs, indirects et induits. C'est quasiment 10% de la fréquentation des clientèles étrangères qui viennent à Disney. C'est aussi des retombées économiques et des retombées de visites pour le bassin francilien et notamment pour Paris, puisqu'il y a les étrangers qui viennent à Euro Disney et qui en profitent pour visiter la France. Si on se place du point de vue des actionnaires, effectivement, les actionnaires ont été lessivés au fur et à mesure de l'évolution du parc. D'ailleurs, il y a quelques actionnaires qui visiblement ne sont pas très rancuniers, puisque il continue à être présent dans le capital de Euro Disney.
Parce qu'ils n'ont pas tellement le choix.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas tellement le choix, peut-être que ça rentre dans une stratégie plus globale. Quant à la maison mère Disneyland Company, je ne suis pas sûr que Walt Disney Company, je ne suis pas sûr qu'elle soit véritablement perdante. D'abord, il faudrait avoir les
Non, ça je vous confirme, elle est très gagnante même visiblement. Il y a pas de souci.
Vu ce qu'elle doit facturer, elle doit facturer des fees, des attractions, des savoir-faire, de l'ingénierie et toutes sortes de choses. Mais on peut dire que dans cette affaire, la France s'en sort plutôt bien en bénéficiant de ces retombées, de ces créations d'emplois. Mais vous savez, l'économie des parcs à thème est une économie extrêmement complexe. Tout d'abord, ça nécessite des investissements colossaux, tout à fait considérables, et donc avec une très forte dépendance non seulement à l'augmentation et au renouvellement des clientèles, mais aussi à la fidélisation des clientèles. Il y a quelques règles dans les parcs à thème, c'est il faut remplacer tous les ans environ 20% des attractions, donc vous voyez c'est tout à fait colossal en termes
d'investissement. Oui, il y a une recette au succès, justement vous allez nous donner quelques éléments, mais Didier Arnaud, d'abord, vous savez qu'on aime bien dans France Culture passer régulièrement des archives, je vous propose une belle archive, 17 juillet 1955, je sais que cette date vous dit quelque chose puisque c'est la date où on a ouvert le premier parc Disney, souvenez-vous.
To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.
Standing here has been one of the most exciting moments of my life. I think, ladies and gentlemen,
Walt
that anyone
Disney
who's been
personne,
here today
donc le 17 juillet 1955, Disneyland est dédié à l'esprit et au rêve américain, disait-il, avec cet espoir qu'il apportera de la joie, qu'il inspirera aussi le monde entier, Didier Arnaud. En quoi diriez-vous que, finalement, cette date marque la genèse d'un concept nouveau? En quoi ce premier Disneyland allait poser les bases, justement, d'un modèle économique des parcs à thème qui existent encore aujourd'hui? Et puis, surtout, la question qui nous intéresse, c'est celle que vous aviez commencé à évoquer, celle de la recette du succès. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, Didier Arnaud?
Ce qui fait que ça fonctionne, c'est le rêve. C'est la part de rêve. Disney a su nous toucher sur ce que nous avons de plus profond et d'une façon d'ailleurs assez régressive, qui plaît bien à la clientèle américaine et notamment à la clientèle chinoise. On en parlera certainement plus tard avec vos autres invités. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça correspondait à cette part de rêve où tout est possible, où on est dans un imaginaire, où tout est beau, sans trop réfléchir. Ça correspond aussi au fait que les Américains ont peu de vacances et par conséquent, c'est une soupape de sécurité, on peut dire, de pouvoir aller dans un parc à thème, tout oublier, partager des choses avec...
Tout ça, c'est la part de rêve et vous avez raison de la mentionner parce qu'elle est absolument centrale, mais il y a aussi des choses, j'allais dire, plus pragmatiques avec un sens aigu du marketing, avec un renouvellement aussi constant des attractions, vous le disiez, et c'est ça aussi la clé du succès, c'est proposer de nouvelles activités, c'est créer des événements autour pour pousser les gens à venir et à revenir plusieurs fois, Didier Arnaud.
L'idée et ce qu'ont très très bien fait les Américains, c'était d'abord de vous permettre de devenir accro, fidèle au parc d'attractions, en dépensant un maximum, donc en vous sollicitant tout au long de votre parcours visiteur, à la fois pour que bien sûr vous payiez une entrée, vous achetiez des souvenirs, vous consommez les restaurants, mais aussi que vous puissiez avoir un tel bonheur partagé que vous ayez envie très rapidement d'y retourner. Dans la sociologie française, les choses sont très différentes. D'abord, il y a un fort rejet chez nous de Disney au départ, hein, avec une identité très forte des Français, et tout cela paraissait un peu superficiel, le symbole d'une société de consommation extrême, d'un abêtissement des foules. Donc il y avait dans la société française un grand rejet, et c'est pour ça qu'on a eu nos propres modèles de développement de parcs de loisirs et de parcs d'attractions. Au-delà des a priori, il a bien fallu une dizaine d'années avant que les Français s'approprient justement Disneyland Paris, qui a d'ailleurs changé de nom et qui a été beaucoup plus identifié à la destination France, puisqu'au départ, les Américains imaginaient un gros marché comme ça. C'était Euro Disney et tout le monde devait se fondre dans ce modèle américain. Et ça n'a pas très bien fonctionné auprès des clientèles françaises dès le départ.
Mais ceci dit, dans le premier Disneyland non plus, au départ, ça n'a pas très bien fonctionné. Il a fallu attendre quelques années pour que ça fonctionne vraiment et que ça devienne véritablement rentable. Donc, de ce point de vue-là, c'était pareil du côté des États-Unis et du côté de la France. Mais finalement, la France s'est convertie à Disneyland et la Chine aussi s'est convertie à Disneyland. Vous restez avec nous, Didier Arinaud, mais je me tourne à présent vers Benjamin Tonnet pour évoquer la Chine, puisque de l'autre côté des États-Unis, la Chine aussi a lancé, on le voit, la guerre des parcs d'attractions avec son rival américain. On a évidemment une classe moyenne, Benjamin Tonnet, de centaines de millions d'individus, avides de consommation. Pékin se voit désormais en leader, peut-être demain, du secteur du tourisme et des loisirs. L'année dernière, je le disais, Disney inaugurait donc un nouveau parc de loisirs, le premier en Chine continentale, à Shanghai. Et quelques semaines plus tôt, on avait le groupe immobilier Wanda qui inaugurait sa Wanda City. On y retrouve donc un parc à thème de 80 hectares, avec les plus hautes montagnes russes de Chine, nous dit-on, avec un immense aquarium. Le groupe Wanda prévoit d'en bâtir une quinzaine de nouveaux parcs à thème. On est là dans une véritable guerre des parcs à thème, c'est-à-dire que c'est l'un des secteurs, comme beaucoup d'autres, dans lesquels eh bien, les États-Unis et la Chine se livrent une bataille économique terrible.
Tout à fait. Alors, d'ailleurs, ce qu'il faudrait dire avec Disney à Shanghai, c'est que l'ouverture a été retardée par rapport à ce qui était prévu. Moi, je me souviens, j'avais vu dans un colloque en 2011 le président de Disney qui était venu en Chine à Shanghai dans un colloque présenté, et il était en retard. Et déjà, ça, c'est un indice qui doit nous orienter vers cette piste aujourd'hui du nationalisme et de la guerre que se livre Disney, Wanda, qu'on pourrait élargir à d'autres. Hein. Je pense notamment à Uber, qui a un concurrent qui s'appelle Didi Dache pour les taxis en Chine, Airbnb qui a Katudia, etc., etc. Alors, ce qui ferait peut-être dire, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, Wanda, c'est un conglomérat qui est créé en 1988 dans le nord-est de la Chine, dans une ville industrielle qui est la ville de Dalian, et qui aujourd'hui s'occupe de tourisme, d'hôtellerie, de cinéma. Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés en Chine, il faut imaginer dans chaque grande ville un immense mall, un très grand centre commercial, où on a un cinéma, où on a des restaurants, où on a des hôtels aussi parfois, où on peut, je crois qu'il y en a 71 si j'ai bien noté, donc il y en a au moins un dans chaque grande ville chinoise. Et Wang Jianlin, donc le président, il faut pas oublier qu'il a été membre du Parti communiste. Il a quitté le Parti communiste chinois en 1989. Il est passé du public après avoir une carrière dans l'armée, il a été soldat, etc. Il est né en 54, donc il a connu l'ère de la révolution culturelle. Il avait 22 ans quand Mao Zedong est mort. Donc il a vraiment été imprégné, de ce communisme qui s'est transformé dans un socialisme de marché dont il a bien sûr profité. Donc, il est d'ailleurs très connu en Chine parce que c'est l'homme le plus riche, parce qu'il a un fils qui est, selon les réseaux sociaux chinois, absolument insupportable, qui est critiqué tout le temps, et il a une proximité du pouvoir. Donc il fait partie de ces gens qui sont très proches de l'oligarchie entre public, privé.
Et aussi pour une raison, qui est que le tourisme est un enjeu économique essentiel pour le gouvernement, mais on va y revenir. Didier Arinaud, vous disiez tout à l'heure, en France, on a une certaine défiance, une certaine méfiance à l'égard de la disneyfication du monde, d'une certaine manière. C'était l'incarnation de cette hégémonie culturelle américaine. Du côté de la Chine, on voit aussi cette chose, puisque Wang Jianlin a déclaré, au moment de l'inauguration de Disney, il disait « La folie autour de Mickey et Donald Duck est passée. L'époque où nous imitions Disney aveuglément est révolue. » Est-ce qu'il a raison? Est-ce que, d'une certaine manière, la fascination pour ce modèle culturel américain, incarné entre autres par Disney, s'est un peu estompée ces dernières années? Qu'est-ce que vous le diriez?
Moi, je pense qu'au travers de ces mots, ce que l'on voit, c'est les mots du gouvernement chinois. Ce qu'il dit, c'est pas autre chose que ce que dit le président Xi Jinping. C'est-à-dire, Nous voulons aujourd'hui en Chine, depuis qu'il est arrivé président en 2012, début 2013, on veut quelque chose qui soit néo-confucianiste. On veut plus des architectes étrangers qui viennent construire des bâtiments, je pense au bâtiment de la télévision à Pékin de CCTV. On veut, et il le dit clairement, on ne veut plus ce type d'éléments. Les USA, les Américains, c'est l'ennemi. À la télé, tous les jours, vous allumez votre poste et qu'est-ce que vous voyez ? Les erreurs des Américains. C'est dit clairement et ça passe dans les informations. Donc il reprend ces éléments et donc il se fait le chantre d'être le concurrent de Disney, de Mickey. Et d'ailleurs,
mais en quoi Benjamin Tenet, la proposition de Wang Jianlin, je ne sais pas si je le prononce correctement, avec ses Wanda City, se distingue-t-elle précisément de ce qu'on a avec le Disneyland chinois?
Alors, le Disneyland chinois là qui a ouvert juste avant Disney Shanghai, il n'est pas situé au même endroit. Il est situé toujours dans le mégalopole shanghaïenne, mais plutôt à l'ouest et dans sa bordure qui est plutôt pauvre, à refait. Et ça, c'est un choix. C'est-à-dire, bon, bah, il y a Shanghai, cette ville, l'anciennement impérial, c'est les méchants étrangers qui ont colonisé, etc., avec toute l'histoire que l'on connaît. Nous, on va construire dans la Chine, qui ressemble à la Chine, pour les Chinois. Non, et voilà, c'est ça. Il y a une stratégie complètement qui est concurrente et différente.
Mais justement, alors sur ces stratégies, et puis ensuite, peut-être qu'on posera la question à Didier Arino, mais on voit que la stratégie américaine et chinoise sont extrêmement différentes. Les deux sont extrêmement différents. Les Américains ont choisi de miser sur un parc, dans une très grosse ville, en l'occurrence Shanghai, avec un prix d'accès qui est très élevé. Ça va jusqu'à quasiment 500 yuan, c'est-à-dire 70 euros à peu près. Alors que les Chinois, eux, misent sur plusieurs marques, en tout cas pour ce qui est de Wanda City, plusieurs parcs, pardon, disséminés un petit peu partout sur le territoire, avec des prix d'accès aussi qui sont bien inférieurs. On parle de 200 yuan, c'est-à-dire à peu près 25 euros. Que vous inspire précisément cette différence de stratégie?
Je pense que Wanda, c'est la face émergée, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais derrière, comme vous l'avez dit, on a des milliers de parcs en Chine.
Plus de 3000 parcs, c'est absolument...
je crois, oui, plus de 3000. Qui ont tous été construits dans les années 80 et 1990. Et qui, au départ, répondaient à une volonté du gouvernement chinois de planifier le développement de l'économie grâce au tourisme, mais dans une logique de localité. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 80, tout début de l'ère Deng Xiaoping, la Chine est un pays qui est pauvre, qui est un pays qui est peu urbanisé. Je crois qu'on était à 18% d'urbanisation. Donc, pour aller d'une ville à une autre, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va implanter des parcs un petit peu partout pour que les locaux, pour qui l'entrée du parc était gratuite d'ailleurs, ceux qui habitaient dans la ville, entrer gratuitement, mais pour les autres, bon, ça coûtait cher. Ça permettait de développer l'économie locale, mais aussi parce qu'un parc, c'est un univers de sens. On y met ce que l'on veut, on écrit ce que l'on veut, on passe de la musique, on fait des peintures, etc. C'est un univers de sens dans lequel on peut placer tous les repères que l'on souhaite, et notamment des repères nationalistes.
Alors justement, les univers de sens, on les évoquera tout à l'heure, mais peut-être on pourrait se tourner vers le spécialiste des parcs à thème, Didier Arino, pour réagir à propos de cette différence de stratégie entre les Américains et les Chinois. On disait 3000 parcs à thème en Chine, selon certains analystes. Alors il faut toujours se méfier un petit peu, mais on nous dit que 70% des parcs à thème en réalité seraient en perte, donc ne seraient pas rentables. Que vous inspire ces deux modèles opposés dans le développement de parcs à thème, Didier Arino?
Alors tout d'abord, la Chine est un immense pays, et une petite ville en Chine, c'est 6 millions d'habitants. Donc ça laisse la place à un certain nombre de parcs d'attractions, de parcs à thème. Il y a aussi derrière une certaine idéologie. L'idée, c'est de proposer aux Chinois du divertissement. Plus le peuple se divertit, moins il a de chances de se révolter. C'est aussi, ça accompagne aussi l'augmentation du pouvoir d'achat des Chinois, avec un désir qui est un désir de consommation. Et les Chinois sont très organisés, et donc ils essayent de planifier les choses. Ils voient bien qu'il y a une augmentation de ce pouvoir d'achat. Il est beaucoup plus intéressant d'avoir des opérateurs et des acteurs chinois qui proposent une offre plutôt que de dépendre des Américains. En cela d'ailleurs, on leur ressemble assez aux Chinois. On a les Français comme les Chinois, on a toujours l'impression d'être un peu le centre du monde. On on est un peu en révolte contre, en tout cas idéologiquement, face aux géants américains. Et puis l'autre aspect qui est un aspect important, c'est qu'il y a différents types de publics, donc avec des attentes qui peuvent être fort différentes suivant les moments. Il peut y avoir des parcs qui sont plus adaptés aux familles, aux enfants, aux adultes, thématisés, et puis avec des parcs effectivement qui amènent une idéologie, un sens, une volonté de raconter une histoire, de raconter des histoires. Tout cela n'est pas neutre.
Cette hypothèse-là, est-ce qu'elle est confirmée sur le terrain, Benjamin Tonnet? C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des parcs à thème qui s'adresseraient à des publics différents. Est-ce que là, dans le cas des Wanda City et du nouveau Disneyland, on est dans ce cas précisément?
Tout à fait, parce que...
C'est intéressant de faire un peu de sociologie des visiteurs des parcs à thème.
Alors, il y a des très grands parcs hein, qui sont très chers, vous l'avez dit, qui peuvent aller jusqu'à 200 yuan, mais il y en a d'autres, c'est quelques dizaines de yuan qui seront presque accessibles, j'ai envie de dire, aux gens qui habitent en ville. Hein. Je pense que de toute façon, les parcs en Chine, ils se dirigent principalement d'abord vers les urbains, et plus que les classes moyennes, je pense plutôt les classes aisées. Bon. Après, tout à l'heure, ce que l'on disait, créer des parcs, ça crée un divertissement, mais ça permet aussi de détourner le regard. Et en Chine, il ne faut pas oublier que dans les bureaux de tourisme, il y a toujours un département qui s'appelle la paix sociale, qui va avec la propagande, d'ailleurs. Donc, c'est bien divertir, et pendant que ces Chinois urbains, aisés, ou plus ou moins, se divertissent, ils ne pensent pas à autre chose, ils ne pensent pas à la pollution qui augmente de jour en jour, ils ne pensent pas peut-être au pouvoir d'achat, etc. Donc, ça permet, je crois, vraiment de détourner l'attention.
Je me retourne vers vous, pardon Didier Arnaud, je vous ai coupé, et puis j'en profite pour glisser peut-être une nouvelle question, parce que toujours dans cette opposition entre les Américains et les Chinois, bien sûr, Disney possède une très longue expérience, on entendait cet archive de 1955 en matière de parcs d'attractions, ce qui est quand même moins le cas des Chinois. Wang Jianlin, lui, il fait le pari, d'abord évidemment, de monter des parcs en Chine qui seront rentables sur le plan économique, mais aussi de les exporter à l'étranger. Ça vous paraît possible comme défi, ça?
Ça me paraît beaucoup plus difficile. Autant, d'abord, les Chinois ont eu besoin de regarder ce qui se faisait ailleurs, de prendre des recettes à l'étranger. C'est pour ça aussi qu'ils ont utilisé des savoir-faire venus de l'étranger. En revanche, ils apprennent vite. Donc, bien évidemment, ils savent, ils ont identifié un certain nombre de marchés, ils ont identifié un certain nombre de produits qui pourraient être proposés. Mais on peut dire globalement quand même que l'offre portée par les acteurs chinois est un peu en dedans de ce qui peut se faire au niveau international. Donc je les vois mal aujourd'hui exporter. En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'ils rachètent. Les Chinois, à partir du moment où c'est beaucoup plus, ils sont pragmatiques, à partir du moment où c'est plus facile de racheter, de développer, ils le font. Regardez ce qui a été fait avec le Club Med. Là aussi, ça correspondait. Il y a une classe aisée en Chine qui a besoin de se divertir, de partir en vacances, en week-end, sur du court séjour. Le Club
Mais attendez, vous ne nous annoncez pas le rachat par les Chinois de la Walt Disney Company quand même?
Peut-être pas de la Walt Disney Company, mais en tout cas, ils ont tenté de prendre des parts de marché de prendre des parts sociales dans la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, c'est à la fois le leader des remontées mécaniques de la montagne française, mais c'est aussi le propriétaire de parcs d'attractions comme Astérix ou le Futuroscope. Donc, on aurait laissé faire les Chinois. Les Chinois savent très bien protéger leur marché intérieur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé des concurrents, comme vous le disiez, Monsieur Tonnet, de Uber ou de Booking ou des achats en ligne. Mais en revanche, lorsqu'ils le peuvent, ils n'hésitent pas à se développer à l'étranger, à racheter.
Ils s'y prennent
d'ailleurs,
très bien.
Ils sont propriétaires aujourd'hui. Ils sont propriétaires quand vous allez dans un hôtel Campanile, dans un hôtel première classe, c'est propriété de groupes chinois. Ils ont d'ailleurs essayé de monter au capital du groupe Accor. Donc, s'ils peuvent se développer et qu'ils ont le savoir-faire en propre, eh bien, ils vont avoir un développement proprement chinois. Sinon, s'il y a nécessité de passer par le rachat de groupes étrangers, ils le feront.
Oui,
pourquoi pas? Peut-être qu'on
n'est plus dans le parc à thème, là, pour le coup, mais vous avez raison. Et on pourrait rappeler de ce point de vue-là que, pour le coup, le nouveau parc Disney, évidemment, récemment, il s'est installé en Chine parce qu'un partenariat a été monté avec une entreprise chinoise. On ne peut rien faire, on ne peut pas faire d'affaires, évidemment, il faut le rappeler, en Chine, Benjamin Tonnet, sans avoir cette forme de partenariat, évidemment.
Tout à fait, il faut que la partie chinoise soit majoritaire, hein. C'est absolument le cas. C'est le cas du ComMed qui s'est associé avec Fosun, enfin c'est plutôt Fosun qui a racheté le ComMed.
Et votre avis sur cette idée que les Wanda City finalement pourraient pousser un peu partout dans le monde à l'extérieur de la Chine ?
Je pense que c'est pas l'objectif. Je pense que l'objectif de Wanda, pour paraphraser quelque chose d'assez nauséabond, c'est la Chine, les Chinois d'abord. C'est d'abord le marché intérieur chinois qui les intéresse. Racheter, comme on l'a dit, oui, bien sûr, racheter à l'international, conserver en l'état, faire des affaires, gagner, très bien. Mais je pense que c'est complètement différent, l'inspiration de Wanda. C'est pas la même chose que ce que disait en introduction l'ancien patron, enfin le patron historique de Disney, quand il disait Disney doit être une source d'inspiration pour le monde. Je pense que c'est pas le cas pour Wanda. Mmh. Et on le voit notamment dans les parcs Wanda, mais on le voit aussi dans les autres parcs, la forme qui est réalisée, les parcours, les éléments, les signes qui sont mis dedans sont pour des Chinois et ça ne marchera pas à l'international ou du moins pas tout de suite.
Est-ce que c'est l'objectif. C'est un univers de sens spécifiquement chinois. Alors justement, parce qu'on le disait dans les années 80-90, le gouvernement chinois a installé un peu partout sur le territoire des parcs à thème et autres villages folkloriques des traditions populaires. C'est ça la formule, qui sont à la fois des parcs d'attractions mais aussi des musées ethnographiques. Alors le plus significatif, le plus notable peut-être de tous de ces parcs, c'est sans doute Jingxiu Zhonghua, qui signifie Chine magnifique, qui recrée une Chine miniature avec ses principaux sites. On est en plein cœur de Shenzhen. Ce parc, il incarne parfaitement ce désir d'allier évidemment les impératifs de développement du tourisme tout en célébrant, tout en magnifiant la nation chinoise.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs idées dans ce parc qui se trouve à Shenzhen, hein, juste en face de Hong Kong. La première, c'est que c'est une nation une et indivise. On peut pas diviser, hein. Taïwan est bien indiqué sur la carte. Le parc ressemble à une carte de Chine et Taïwan est forcément dedans. La deuxième chose, je pense, c'est une nation qui est plusieurs fois millénaire. Et un élément qu'on retrouve dans tous les parcs, dans beaucoup en tout cas, c'est une Chine millénaire qui résiste aux invasions et qui va reposer un peu comme pour les Américains sur des héros. Le héros, je pense, un parc à Xiamen qui a ramené Taïwan dans le giron chinois face aux Hollandais. Voilà, c'est le récit de bataille héroïque. Et ça, on le retrouve un petit peu partout.
Une nation une et indivisible. L'année dernière, un autre parc a été lancé. Le projet n'est pas encore terminé, mais c'est un parc dédié aux musulmans. Le World Muslim City, qui est situé à Yunchuan, qui est donc une région où vivent les Hui, qui est une ethnie musulmane dans l'ouest du pays. Les femmes y seront autorisées à porter le niqab, ce qui est absolument interdit, notamment par exemple dans le Xinjiang, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, où vivent les Ouïghours. Que cherche à faire le gouvernement chinois avec ce projet ? Précisément, modifier un peu cette idée selon laquelle cette Chine serait une et indivisible. Bien sûr qu'elle est une et indivisible, et en même temps, elle accepte désormais la dimension religieuse. C'est ça le message ?
Je pense que le message, c'est de dire, nous avons une politique des nationalités et nous intégrons tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un État-nation, c'est un État multinational, hein, avec 56 nationalités, que certains traduisent par ethnie. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais je pense que l'objectif de ce parc, c'est un effet d'affichage. Bienvenue, oui, les Roués, qui sont des musulmans, nous pouvons les intégrer malgré tout ce qui se passe dans le Xinjiang à l'ouest avec toutes les populations turcophones qui sont dans une région qui est dite autonome où normalement le chef de la province devrait avoir les coudées franches, mais ce qui n'est pas le cas, c'est d'abord un Han envoyé par Pékin et les nationalités minoritaires, elles sont en dessous. Alors c'est pas n'importe quel endroit, c'est dans le Ningxia qui est la province où il y a le plus de musulmans. Donc on choisit bien les lieux. Et on pourrait revenir d'ailleurs, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ce qui est fait aujourd'hui avec ce parc et ce qui a été fait dans les années 80 où on a maillé le territoire, on a mis des lieux, des thèmes dans des lieux bien précis. On les a choisis parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'était compliqué de se rendre d'un point A à un point B, mais il fallait visiter la Chine, visiter ses principaux points historiques, ses principaux héros. Et en gros, je dirais, pour reprendre une image, c'est comme un puzzle. Voilà, j'étais à tel endroit, tac, je mets la pièce dans le puzzle, ça s'est fait. Et je suis donc fier d'être chinois. Il y a d'autres parcs, hein, si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Mais
on va essayer, en tout cas, on parle de cette question des parcs à thème, Disney, Wanda City, mais aussi Patriot Park. On va prendre justement la direction de la Russie dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Патриот – самая масштабная площадка Министерства обороны Российской Федерации для показа перспективных разработок военного и двойного назначения. Основным назначением парка является соединение военных задач Министерства обороны с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием.
Ah, ce que vous entendez là, c'est le film institutionnel qui présente ce nouveau parc à thème autour de l'armée, de la nation, le Patriot Park. On y exhibe le matériel militaire sur un espace de plus de 5000 hectares. On y refait toute l'histoire de l'aviation russe. On vous y présente aussi une impressionnante collection de chars d'assaut. On y reconstitue aussi de célèbres batailles qui viennent flatter la combativité des soldats russes et la grandeur de la nation russe, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Bref, c'est la vitrine de la puissance russe. On va retrouver Dominique Derda, qui est correspondant de France 2 à Moscou. Il s'y était rendu, lui, au moment de l'ouverture en 2015. Il nous en parle, il est au micro de Tiffaine de Roquigny.
C'est un parc qui est gigantesque, hein. Il fait une cinquantaine d'hectares. À la fois une partie amusement, si l'on veut, pour les gens. On peut admirer des chars, on peut voir des avions, on peut y jouer à des jeux pseudo-militaires, c'est-à-dire il y a des parcours du combattant pour les enfants, il y a des attractions de ce genre. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a une fois par an, peut-être même plus, mais au moins une fois par an, une grande fête. Il y a des courses de véhicules blindés, une course internationale à laquelle participent notamment des pays qui sont soit d'anciens membres de l'Union soviétique, soit des pays qui sont proches politiquement, militairement de la Russie. Donc il y a des événements comme ça. Et puis il y a eu cette reconstitution de la bataille du Rajsak qui s'est déroulée peu de temps avant les commémorations de la victoire. C'est quelque chose de très important pour le régime russe, les commémorations de la victoire. C'est une manière de rassembler un peu toute la population et tout le monde dans des commémorations d'un passé à la fois tragique, parce qu'il y a eu énormément de morts, on le sait bien, en Union soviétique, durant la Deuxième Guerre mondiale, entre 25 et 27 millions de morts. Puis c'est aussi une source de fierté nationale, et cette fierté, elle est entretenue par le régime. Elle l'a été d'une façon très spectaculaire il y a 2 ans pour les 70 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie.
Il y a un vrai opportunisme effectivement du Kremlin, puisque depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014, le pays a connu une vague de patriotisme sans précédent.
Oui, absolument, et parce que il faut bien trouver des raisons de se réjouir en Russie. Et comme toujours dans ce cas-là, on se tourne vers un passé que l'on veut glorieux, qu'il a été. C'est clair que l'Union soviétique a joué un rôle extrêmement important dans la victoire contre l'Allemagne nazie à l'époque, mais il n'y a pas beaucoup d'autres sources de fierté. Alors on a vu qu'avec effectivement l'annexion de la Crimée, là encore, le pouvoir a joué sur la fibre patriotique. Et il le fait d'autant plus que l'économie russe se porte pas très très bien et que, une fois encore, il faut trouver des raisons de se dire qu'on est un grand pays. On l'a vu encore avec la création d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle Yunarmia, l'armée de la jeunesse, qui a été inventé par le ministère de la Défense tout récemment en Russie. On les a vus défiler cette année pour la première fois sur la place rouge le 9 mai, ces jeunes de Yunarmia.
Et justement, le lancement a eu lieu au Patriot Park.
Oui, ça a eu lieu au Patriot Park et ils ont défilé sur la place rouge en ouverture du cortège militaire, parmi les tout premiers à défiler ce jour-là, devant la tribune. Il y avait Yunarmia. Et Yunarmia, ce sont des jeunes auxquels on inculque à la fois le patriotisme, l'amour de la patrie, mais aussi le béaba du maniement des armes. Ce Reichstag en miniature qui a été créé là-bas, il a servi aussi à ces jeunes de Yunarmia pour qu'ils s'entraînent eux aussi et qu'ils jouent à la guerre dans les fausses ruines en polystyrène de cet ancien Reichstag. C'est un peu pour le Kremlin une manière d'entretenir là aussi ce patriotisme qui est de loin l'idéologie la plus importante du poutinisme aujourd'hui.
Dominique Derda, donc correspondant de France 2 à Moscou, il était au micro de Tiffaine de Roquigny sur ce Patriot Park russe. Benjamin Tonnet, du côté de la Chine aussi, on essaye de glorifier le pouvoir dans des parcs d'attractions. Ça fonctionne pas toujours. Hein. Parfois, les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie sur un parc, je crois, qui essayait de mettre en avant le pouvoir comme ça, hein, Benjamin Tonnet.
Tout à fait. En fait, on a ce qu'on appelait le tourisme rouge. C'est le gouvernement chinois, dès, je crois, 1993, a créé des sites d'éducation patriotique dans lesquels il a forcé, hein, disons-le, les scolaires, les lycéens, mais aussi des employés, des unités de travail, des entreprises publiques à se rendre dans ces parcs. Et ça les ennuyait à mort, hein, disons-le. Donc Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il y a eu cette volonté, mais ce n'est pas parce que l'État le souhaite que ça fonctionne. Donc, il y a besoin d'un peu de divertissement.
Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas partout. Et là, je me tourne vers vous, Didier Arinaud, parce que la patrie, la nation, c'est précisément le cœur du Puy du Fou, justement, lancé en 1977 par Philippe de Villiers, qui est désormais dirigé par l'un de ses fils. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de visiteurs chaque année. C'est un succès très important, d'ailleurs à tel point qu'on a des parcs semblables qui pourraient s'ouvrir à l'étranger. On a justement des projets du côté de la Russie, même si je crois que c'est un peu au point mort, en Chine, en Espagne, la ville de Tolède aussi devrait ouvrir un parc dans les prochains mois. On sent bien que ce succès du Puy du Fou, il a fait des petits, si je puis dire, et que finalement, il incarne parfaitement ce besoin de récit national pour les citoyens dans ce monde globalisé, disneyfié, où on a l'impression que les identités locales, régionales et nationales ont été un peu diluées, hein, Didier Arinaud, c'est ça aussi.
Je suis persuadé qu'il y a un marché tout à fait considérable sur ces parcs qui s'inscrivent dans une histoire, sur des territoires, et il y a un besoin de récits un peu partout dans le monde. Et puis, il faut bien le dire, le Puy du Fou a un savoir-faire extraordinaire, unique, à la fois en matière de spectacle vivant, mais aussi dans la capacité à partir d'une base historique, de pouvoir la mettre en scène, la mettre en spectacle. Et la grande force du Puy du Fou, c'est d'avoir un tel savoir-faire qu'ils font mieux pour beaucoup moins cher. Ce qui donne, quand il crée une attraction à 3 millions d'euros, Disney, il lui faut au moins 10 fois plus pour créer la même attraction. Donc il y a des filières qui sont développées à partir de ce savoir-faire, d'artisanat, de fauconnerie, de dressage des chevaux, donc il y a d'abord de vraies créations d'emplois, de vraies filières, et une capacité à se renouveler, à toujours réinvestir, pour une raison simple aussi, c'est que, à la différence de certains parcs, dont la volonté de ces initiateurs était de gagner de l'argent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la grande force du Puy du Fou, c'est de réinvestir la totalité de ses bénéfices dans de nouvelles attractions pour faire grandir le parc. Donc,
oui, là aussi, il y a un art finalement du renouvellement qui est très important et qui explique le succès aussi du Puy du Fou. Vous parliez de mise en scène, de spectacle. Il faut qu'on parle de cinéma, et peut-être en particulier le cinéma américain, qui regorge de films avec des parcs d'attractions comme décor de fond. Je pense à Jurassic Park, évidemment, Destination Finale 3, Le Flic de Beverly Hills 3, Le Toboggan de la Mort. C'est pas tous des chefs-d'œuvre, mais on pense aussi à un film culte de la science-fiction qui s'appelle Monde Ouest, qui est centré sur un parc d'attractions futuriste peuplé de robots qui vous permettent de revivre différentes époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'univers de l'Ouest américain, où les visiteurs peuvent vivre comme au temps des pionniers américains, avec des robots qui leur donnent la réplique dans un immense jeu de rôle grandeur nature, des robots qu'on peut traiter comme on veut, sur lesquels on peut assouvir tous ses fantasmes, on peut même les tuer sans merci.
Pardon me, sir. What is your name?
Gardner Lewis. Just got back from Westworld.
Tell us how you liked it, Mr. Lewis.
When you played cowboys and Indians as a kid, you'd point your fingers and go bang, bang, and the other kid would lie down and pretend dead. Well, Westworld is the same thing, only it's for real. I shot 6 people. Well, they weren't real people.
What Mr. Lewis means is he shot 6 robots, scientifically programmed to look, act, talk, and even bleed, just like humans do. Now, isn't that right?
Well, they may have been robots. I mean, I think they were robots. I know they were robots.
Yes, the robots of Westworld are there to serve you and to give you the most unique vacation experience of your life. Thank you, sir.
Voilà, témoignage de ce visiteur revenu de Westworld, si fier de pouvoir jouer aux cow-boys et aux indiens comme le feraient des enfants, sauf que là, c'est pour de vrai, on peut tuer les gens, puisque dans ce parc d'attractions, les autres sont en fait des robots. Le film est sorti en 1973, il a été écrit et réalisé par Michael Crichton. C'est presque 20 ans avant de céder ses droits, les droits de son livre Jurassic Park, à Universal, parce que Crichton, c'est un spécialiste donc du parc d'attractions au cinéma, et ça continue, hein, puisque Monde Ouest a donné naissance à une nouvelle série diffusée sur HBO, Westworld. On va retrouver en direct depuis Cannes, Simon Rio, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment, vous êtes avec nous en direct de Cannes, dans les studios de France Culture, vous êtes rédacteur en chef du site Écran Large. Comment expliquer ce rapport extrêmement intime entre le cinéma et les parcs d'attractions?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le parc d'attractions, ou son ancêtre, son cousin éloigné, la fête foraine, c'est une illusion à laquelle on consent. on arrive dans un décor et qu'on accepte de ne plus considérer le temps d'une attraction comme un décor, mais comme une réalité. Par conséquent, c'est un terrain métaphorique, un terrain de jeu qui est très intéressant pour le cinéma, parce que le cinéma, c'est la suspension d'incrédulité. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes, plus ou moins consciemment, parfois à dessein, qui vont investir ce lieu comme un lieu de représentation du cinéma, comme un lieu méta. Et le cinéma aime beaucoup parler de lui, souvent, régulièrement. C'est le cas dans un des films que vous avez évoqué tout à l'heure, Le Flic de Beverly Hills 3, qui est vraiment un terrain de jeu cinéphile. Alors, le film a énormément de défauts, mais il est réalisé par John Landis, qui est un réalisateur qui est extrêmement cultivé, qui connaît très bien l'histoire du cinéma et qui va s'amuser à mettre en scène et à parodier le cinéma des années 80 dans le film. Enfin, il y a une autre donnée évidente dans l'attrait qu'exerce ce lieu un peu fantasmatique pour le cinéma. C'est tout simplement que on va y rejouer, et vous avez commencé à en parler dans Westworld, des rapports de domination sociale, des rapports capitalistiques, de manière, on va dire, assez pure. Et ça permet de les traiter de très frontalement. Parce que tout simplement, le client est roi, bien sûr, a fortiori dans le cinéma américain et dans la culture américaine. Et donc le client du parc d'attractions arrive dans un lieu où il va amener une domination sociale verticale immédiate. Dans Westworld, c'est très parlant. Des hommes et des femmes se rendent dans ce parc qui représente notamment le western pour pouvoir y accomplir tous les actes fantasmatiques, délictueux, répréhensibles, obscènes, criminels, qu'ils ne peuvent évidemment pas appliquer dans le réel.
Ah oui, parce que ce parc d'attractions, finalement, il est aussi un lieu où d'une certaine manière, on rejette les règles pour en imposer de nouvelles. Et dans la série Westworld, c'est exactement ça. On abandonne les tabous et les interdits pour vivre une expérience extrêmement libérale, laisser libre cours à tous ces fantasmes, à toutes ces envies. Et le meilleur endroit, finalement, pour se débarrasser des règles morales régissant le fonctionnement de l'humanité en général, c'est un faux monde, c'est un monde reconstruit, artificiel, factice. Et là, on est dans le parc d'attractions.
Absolument, tout à fait. C'est exactement ça. Et alors, ce qui est intéressant et ce qui fait de Westworld une œuvre au-delà des questions de divertissement et de mise en scène, une œuvre extrêmement politique, c'est que le message de Westworld, c'est que c'est cette pulsion qui est souvent une pulsion de mort, que viennent apporter donc les clients richissimes de Westworld, c'est le fait de faire souffrir ainsi ces androïdes qui va les faire accéder à la conscience. C'est la douleur répétée, la violence qui leur est donnée régulièrement et en continu, qui va les transformer en sous-prolétariat et non plus uniquement en machine, leur donner un sens et les faire accéder à la conscience. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et ce qui est alors un peu plus ambivalent, mais qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une notion dans ce cinéma hollywoodien, qui est pourtant bien loin d'être marxiste, mais il y a une vraie notion aussi de punir cette espèce d'appât très puissant, d'appât du gain, qu'on retrouve totalement dans Jurassic Park.
Et dans Westworld aussi, c'est une certaine manière une critique du capitalisme, on peut aussi le lire comme ça, dans Monde Ouest et dans Westworld?
Absolument. C'est une critique peut-être pas du capitalisme, mais de certains tropismes qu'il induit. C'est-à-dire de la capacité de ces turéférères à considérer l'autre comme gagnant moins et étant d'une classe sociale inférieure, comme n'ayant pas accès au même rang d'humanité. C'est ce type de comportement, c'est ce type de tournure d'esprit qui va être critiqué très violemment, tout simplement en mettant en scène le fait que, le réel revient et toque à la porte et dit non, j'existe et j'ai 2-3 mots à te dire. Ce qui est très amusant dans Jurassic Park, qui fonctionne sur un ton beaucoup plus léger, mais qui raconte quelque chose d'assez amusant, ce sont des êtres humains qui vont donc visiter un parc d'attractions dans lequel il y a des dinosaures qui, parce que nous sommes dans un parc d'attractions, sont appréhendés comme des machines, comme des attractions, et vont en fait se révéler bien vivants et être capables de boulotter les visiteurs du parc. Voilà, il y a toujours ce rapport un petit peu heurté, un petit peu conflictuel entre un cinéma qui en plus est un cinéma de grands spectacles, Westworld comme Jurassic Park sont ce qu'on appelle des blockbusters, ce sont d'énormes productions et qui ont un plaisir malin à mettre en scène le châtiment infligé à celui qui serait un peu trop capitaliste.
Oui. Et ce qui est amusant, c'est que au fond les premiers films notables dans lesquels on retrouve des scènes dans des parcs d'attractions, en fait ils précédaient l'ouverture des principaux parcs. On parlait tout à l'heure de 1955 et du premier Disneyland. Freaks, par exemple, de Todd Browning de 1932, se déroule dans un cirque d'une certaine manière. Il s'agit là d'un parc d'attractions.
Exactement, tout à fait. C'est un cirque de monstres, ce qu'on appelle un carnival. Et là, pour le coup, c'est le pendant peut-être, j'ai envie de dire, plus entre guillemets, plus européen, plus politique de cette vision du parc d'attractions, que tout simplement. Alors, qui joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau un niveau métaphorique, parce que ce carnival, cette parade, est une micro-société où se jouent des enjeux de pouvoir, d'humanité. Très concret, mais c'est aussi une œuvre politique en ce sens que Todd Browning conçoit et pense son film véritablement pour adresser la question de ces humains qu'on montre, qu'on parque et qu'on traite de manière totalement inhumaine. Et d'ailleurs, ça marchera. Et la législation qui a été modifiée peu de temps après le film et doit beaucoup à l'œuvre de Browning. Donc ça, c'est un excellent exemple. Et en général, oui, je vous en prie.
Oui. Non, mais parce que ce qui est intéressant, effectivement, dans ce film, c'est qu'il s'agit pour Browning là d'interroger finalement la frontière entre humanité et monstruosité. Je reprends le terme parce que c'est le sous-titre du film Freaks, la monstrueuse parade. Ce qui avait beaucoup choqué d'ailleurs à l'époque, hein, à tel point qu'il Absolument. A été retiré des salles, et que d'une certaine manière, ça annonce aussi la fin de la carrière du cinéaste. Quand même.
Tout à fait, ouais. Absolument. Et puis, ce qui était très fort dans le film et ce qui a probablement énormément choqué, c'est pas tant le fait qu'on montre des monstres, entre guillemets, ou qu'on leur confère une humanité, c'est la façon dont l'humanité se déplace dans le film. C'est-à-dire que les monstres deviennent rapidement humains et les humains deviennent rapidement des monstres. Aussi bien à un niveau métaphorique que physiologique, et ça a été perçu comme ouais. une extrême violence. C'est-à-dire, on veut bien être compatissant avec le monstre, mais, inverser les rôles, c'est un peu beaucoup ouais, de monde.
Ouais. Allez, à tout dernier mot avec Didier Arino, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le cinéma inspire en retour les parcs d'attractions. Il y a des films qui ont été de tels succès qu'ils ont été aussi à l'origine de parcs d'attractions. Autour du Magicien d'Oz, d'Avatar, il y a moult parcs ou de projets de parcs autour de grands succès cinématographiques, Didier Arino. En guise de conclusion, on arrive presque au terme.
Oui, et puis il y a des parcs dédiés au cinéma, hein, comme Universal Studios. D'ailleurs, on le voit bien, le succès des films permet de mettre un focus extraordinaire sur de nouvelles attractions, et c'est pour cela d'ailleurs que Disney a racheté les droits de George Lucas pour avoir ses attractions dans ses parcs, et c'est un phénomène. On aura de plus en plus d'ailleurs de liens entre le cinéma et les parcs d'attractions. De la même façon, en un mot, que les parcs d'attractions vont évoluer, les parcs à thème vont évoluer, avec de plus en plus, ils seront aussi un peu musées, lieux de spectacle, comme on a pu le voir avec la Cité du Vin à Bordeaux, où on est à la fois mi-musée, mi-parc d'attractions. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à inventer.
Oui, comme ça l'est déjà beaucoup, notamment en Chine, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin Tonnet, mais on est déjà dans une forme d'hybridation que vous étiez en train de décrire. En tout cas, un grand merci à tous nos invités. Simon Rio, qui était en direct de Cannes. D'ailleurs, on retournera à Cannes dans quelques instants, qui est rédacteur en chef du site Écran Large. Un grand merci à vous, Didier Arino, d'avoir été avec nous également en duplex de Bordeaux. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire ce duplex. Je rappelle que vous êtes directeur de Pro Tourisme, et également Benjamin Tonnet, que je remercie également d'avoir été avec nous ce matin ici à Paris en studio, qui est géographe, maître de conférence à l'Université d'Angers et membre de l'UFR Estua, auteur d'un La mondialisation du tourisme, qui était paru aux presses universitaires de Rennes. On mettra tout ça bien sûr sur le site internet de France Culture. Merci à tous. Passé de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de cette semaine, vous nous parlez des Allemands, on se demande ce que veut dire être Allemand. Vous lisez pour nous cet inédit Norbert Elias, intitulé « Les Allemands », qui vient juste de paraître en traduction chez Gallimard. Le grand sociologue allemand s'y interroge en particulier sur la grande poussée de barbarisation qu'a connue le peuple allemand à l'époque hitlérienne. Quelle place fait-il au nationalisme dans ce livre ?
Elias observe que l'on ne saurait parler du nationalisme de manière abstraite et générale. Chaque culture nationale a développé sa version particulière de cette idéologie qu'il désigne comme l'une des grandes croyances sociales singulières des sociétés des 19e et 20e siècles. Et cette version est bien sûr le fruit de son histoire. Alors celle de l'Allemagne a laissé à son peuple un profond sentiment d'insécurité. Alors que le Saint-Empire romain et germanique avait été la première puissance du haut Moyen-Âge, les Allemands ont été incapables de bâtir un État moderne à l'époque où la France, l'Angleterre, la Suède et même la Russie faisaient l'expérience de l'unification sous des monarques absolutistes. Dans les Allemagnes, non seulement les grands féodaux se sont épanouis, provoquant un morcellement politique sans égal, mais le pouvoir central s'est décomposé. Et la mémoire de la guerre de 30 ans, au cours de laquelle les puissances catholiques et protestantes sont venues régler leurs comptes sur le sol allemand au XVIIe siècle, a laissé des traces mémorielles terriblement douloureuse. Un tiers de la population allemande, en effet, a disparu à cette époque, victime des bandes de soudards, des famines et des épidémies. Or, la défaite de 1918 est venue réactiver le souvenir de cette tragédie nationale. Pour Elias, qui est un grand lecteur de Freud, il existe, je le cite, des liens analogues entre le destin et les expériences d'un peuple sur la longue durée et son habitus social, et ce mis en lumière par Freud entre les expériences vécues d'une personne et ses névroses. Je le cite encore, « Il est toujours très étonnant d'observer à quel point des modes spécifiques de pensée, d'action et de sentiment se répètent à travers les générations dans une seule et même société ». Alors pour étudier la spécificité du nationalisme allemand, Elias tire deux fils, tous les deux extrêmement révélateurs. Le premier est archi-classique, c'est l'évolution dans la langue allemande du mot « Kultur » par opposition à « Zivilisation ». Le second, c'est l'usage de la « Virtu » machiavélienne.
Alors la « Kultur » pour commencer, en quoi ce mot en allemand en est-il venu à prendre un sens assez différent de celui qu'il a en France ?
Au départ, à la fin du siècle des Lumières, avant que la France du Premier Empire envahisse et soumette les Allemagnes en abrogeant ce qui restait du fameux Saint-Empire, il n'y a pas de différence sensible entre culture et Kultur. En 1789, lorsque Friedrich Schiller prononce sa fameuse leçon « Qu'appelle-t-on et à quelle fin étudie-t-on l'histoire universelle ?», cet Allemand développe des idées très proches en réalité de celles de Condorcet. La culture, entendue au sens large, science, philosophie, religion, poésie, architecture, art plastique et musique, mais aussi état des mœurs, cette culture est déployée comme ayant réalisé de très grands progrès. C'est la vision optimiste d'une humanité qui est poussée par une tendance normale à l'amélioration. Au tournant des 18e et 19e siècles, la bourgeoisie libérale allemande revendique cette culture comme son bien propre. Elle est humaniste et universaliste comme la nôtre. Mais contrairement à ce qui se produit au même moment en France, elle n'a pas accès à l'exercice du pouvoir. Celui-ci est réservé à une ribambelle de princes entourés de mini-cours peuplés d'aristocrates. Ce monde des cours, la bourgeoisie le considère comme vaniteux, affecté, inauthentique. Sa Kultur sert alors à cette classe moyenne de refuge. Elle y cultive la fameuse liberté intérieure des Allemands. Louis Dumont, dans son grand livre « L'idéologie allemande », attribuait à Luther la doctrine selon laquelle le chrétien doit obéissance au pouvoir, bien que la vie publique soit par nature mauvaise et corrompue, mais qu'il conserve la liberté de sa vie intérieure qui est marquée par le dialogue sans médiation avec le Créateur. Alors Elias remarque combien fut virulente à la fin du XIXe siècle en Allemagne l'opposition entre les tenants de l'histoire culturelle au sens large et les spécialistes de l'histoire politique. Derrière leur affrontement dans le champ théorique, il faut lire le heurt entre les partisans de la bourgeoisie et ceux de l'aristocratie. Le drame de l'Allemagne, encore une fois, c'est le fait que l'unité nationale n'ait pas été réalisée par cette bourgeoisie libérale et progressiste lors du printemps des peuples de 1848, mais bien par Bismarck sous Guillaume Ier à la faveur de la victoire remportée contre la France en 1870. Car à partir de cette époque, une bourgeoisie nouvelle singea les manières de l'aristocratie et en adopta la culture. C'est à cette époque que la Kultur fut considérée sous un angle strictement national. C'était la victoire posthume de Fichte, l'ancêtre de ce nationalisme allemand qui est d'abord un nationalisme culturel. C'est à cette époque qu'on commence à opposer systématiquement la Kultur, témoignage du sérieux de l'Allemagne, à la Zivilisation qui renvoie systématiquement à la frivolité française. Et puis, quant au rôle de la Virtu machiavélienne dans la constitution du nationalisme allemand, je vous la réserve pour demain, Florian.
Ça sera donc demain. Je rappellerai donc ce livre de Norbert Elias, Les Allemands, qui vient de paraître en traduction chez Gallimard.